Alors, je pense que vous avez fait sans doute comme moi le constat que l'actualité autour de nous était particulièrement morose. Depuis plus d'un an, la guerre touche l'est du continent, entre l'Ukraine et la Russie. Depuis plus d'un mois, avec l'attaque terroriste du Hamas sur l'État d'Israël, un nouveau conflit s'est réveillé. Les guerres, pénurie alimentaire, manque de certaines matières premières, manque d'huile, parfois de moutarde. Bon, ça date un petit peu, ça revient. L'augmentation du coût de la vie, le coût de l'essence, l'inflation. Bref, on écoute les actualités, on a l'impression de n'avoir que des mauvaises nouvelles. Et juste le sentiment de devoir encore ouvrir le tiroir caisse et sortir de l'argent. Et puis, il y avait la rentrée de septembre, avec les frais, divers et variés, renouvellement des cotisations pour différentes choses, etc. Donc, des frais de plus en plus importants qui pèsent sur les familles. De quoi vraiment tirer la tête, clairement. Je discutais récemment avec des collègues de travail à la maison des adolescents et puis on se disait, mais finalement, on n'a plus envie en ce moment d'écouter les actualités. On n'a plus d'occasion de se réjouir de ce qui se passe autour de nous. Et puis, les impôts. On a oublié. Taxes foncières. Alors, il n'y a plus la taxe d'habitation maintenant. Ça, c'est peut-être quelque chose qui a changé. Mais les impôts, qu'ils soient indirects comme la TVA, dès que vous faites une dépense, les taxes sur l'essence, on pourrait diminuer le coût de l'essence si on diminuait les taxes, etc. Bref, on pourrait rentrer dans de nombreux débats. Et puis alors pour ceux qui consomment de l'alcool, du tabac, là aussi les taxes sont élevées, hein, donc il y a de quoi faire. On a l'impression qu'on n'arrête pas de payer et parfois même de courir après l'argent. Les impôts et les taxes existent depuis longtemps. Alors, j'aimerais faire un petit sondage. Qui parmi vous n'a jamais râlé quand il devait payer des impôts, quand il devait payer des taxes? Oseriez-vous lever la main? Moi, pas, franchement. Alors, peut-être les plus jeunes parmi nous, parce que vous l'avez pas encore forcément vu, quoique avec le coût de la vie, on est en droit de se le demander. Et c'est vrai que les taxes et les impôts existent, mais depuis très, très, très longtemps. Déjà à l'Antiquité, la Palestine était occupée par l'Empire romain. Et c'était Rome qui recevait le fruit des impôts et des taxes. En Palestine, les Juifs acceptaient mal cette occupation. Il y avait même certains mouvements un peu radicaux, la Bible nous en parle, il est question des Zélotes, qui défendaient l'idée d'une libération du pays par les armes. Et puis, à l'opposé, certains juifs profitaient allègrement de la situation pour servir Rome et puis pour s'enrichir en devenant justement collecteurs d'impôts. On en a quelques exemples dans la Bible. Parfois, les collecteurs d'impôts prélevaient plus que nécessaire auprès des populations pour s'enrichir. Et donc, ces juifs qui avaient choisi de collaborer avec l'Empire romain étaient considérés ni plus ni moins comme des traîtres. Les collecteurs d'impôts avaient très très mauvaise réputation. Ça n'a peut-être pas beaucoup changé de nos jours, et pourtant ça vaut le coup parfois quand vous avez des doutes sur est-ce bien caché la bonne case, est-ce bien mis au bon endroit, et maintenant tout se fait par Internet, c'est un peu compliqué. Moi je vois les difficultés que l'on peut avoir avec ma belle-mère qui résiste encore et toujours à l'utilisation du papier pour faire sa déclaration d'impôt, c'est devenu très très compliqué. Collecteur de taxes et d'impôts avait très mauvaise réputation. Et pourtant, Jésus va s'intéresser de plus près à l'un d'entre eux. À l'un qui est nommé Lévi ou Matthieu, qui va sortir de sa zone de confort et qui va changer radicalement de vie. Le collecteur d'impôts va devenir disciple de Christ. Le traître va devenir un serviteur d'une noble cause et va vivre un changement en profondeur. Et le texte que nous allons méditer ce matin illustre justement ce passage où un homme pardonné va être réhabilité, rétabli dans de nouvelles fonctions. Je vous laisse découvrir avec moi l'évangile selon Marc, chapitre 2, à partir du verset 13. Et le texte s'affiche derrière moi. Jésus sortit de nouveau du côté du lac. Toute la foule venait à lui et il l'enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Et comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Le voyant manger avec des collecteurs d'impôts et des pêcheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples « Mais pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pêcheurs à changer d'attitude. » Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Mais pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que les disciples ne jeûnent pas ?» Et Jésus leur répondit, « Les invités à la noce, peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux ? Aussi longtemps que le marié est avec eux, ils ne peuvent jeûner. Des jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront dans ces jours-là. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, sinon la pièce neuve ajoutée arrache une partie du vieux et la déchirure devient pire. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule, les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Jusqu'ici, nous lisons ce texte. Alors voilà le contexte dans lequel nous sommes, Jésus va appeler un collecteur d'impôts, un ennemi, un traître à la nation. Il y a de quoi être surpris à vue humaine, trouvez pas? Comment se fait-il que Jésus fasse appel à un collecteur d'impôts? Il commence à être connu, son ministère public est en plein développement, et Jésus se choisit des collaborateurs directs. Mais pourquoi au sein des ennemis de son peuple? Il y a de quoi être surpris. Alors si nous y réfléchissons, on va se dire, mais finalement, les critères que Jésus a choisis ne sont sans doute pas les mêmes que les nôtres. Il a certainement un autre point de vue. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais parfois quand on veut faire des recrutements, on va faire appel à des cabinets d'experts pour avoir des profils de personnalité pour dire, voilà, telle personne va bien aller avec telle autre, etc. Il y a quelques années, dans une revue anglophone, un journaliste avait imaginé ce que serait un courrier d'un cabinet conseil à qui Jésus aurait adressé les curriculum vitae des 12 apôtres et à qui il aurait communiqué leur profil de personnalité. Et j'ai retrouvé cela, voici ce que cela donnerait. Cher Monsieur Jésus-Christ, nous vous remercions de nous avoir confié les CV des 12 hommes que vous avez sélectionnés pour leur confier des postes de responsabilité dans votre nouvelle entreprise internationale de pêcheurs de tête. Suite à de nombreux examens et entretiens avec nos consultants en aptitude pour le ministère, ainsi qu'une rencontre avec notre psychologue spécialisé, nous vous faisons part des résultats de ce processus d'évaluation. Malheureusement, il s'avère que la plupart de vos candidats manquent d'expérience, de formation et d'aptitude pour le genre d'entreprise dans lequel vous comptez vous lancer. Ils n'ont pas l'esprit d'équipe et leur connaissance des langues étrangères est nettement insuffisante. Nous vous recommandons donc de continuer vos recherches en vue de découvrir des candidats qui aient de l'expérience dans la gestion des affaires et qui aient prouvé leurs compétences. Afin de vous permettre de cibler qualitativement vos prochaines candidatures, voici le résultat de certains profils que vous nous avez transmis. Simon Pierre est un instable émotionnel en proie à des sautes d'humeur. André n'a aucune disposition pour assumer des responsabilités. Les deux frères Jacques et Jean, fils de Zébédée, placent leur intérêt personnel au-dessus du dévouement envers la société. Thomas a tendance à discuter les ordres et pourrait avoir une influence négative sur le groupe. Nous voyons dans l'obligation de vous faire savoir que Matthieu figure sur la liste noire de la commission de Jérusalem pour la transparence des affaires. Jacques a une tendance dangereuse à la radicalisation et à l'utopie, alternant avec des phases de dépression. Les relations de Simon, dit le zélote, avec des milieux extrémistes font de lui un élément difficile à contrôler, susceptible de mener des actions irresponsables. Toutefois, un des candidats a de grandes possibilités. Il est capable, imaginatif, il a le contact facile, un sens développé des affaires, il ne manque pas de relations avec les personnalités haut placées. Son goût pour la discrétion et pour l'organisation sont de vrais atouts et les différents entretiens ont montré qu'il est motivé, ambitieux et n'a pas peur des responsabilités. Nous vous conseillons de prendre Judas Iscariote comme votre administrateur et bras droit. Il est motivé, ambitieux, n'a pas peur des responsabilités. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre nouvelle aventure. En joignant à cette étude notre facture, nous restons à votre disposition pour compléter votre recherche et vous aider dans le développement de votre organisation à laquelle nous souhaitons succès et durée. Intéressant comme point de vue. On est là à l'opposé total de la manière dont Jésus choisit et appelle ses candidats. Un cabinet conseil formé d'éminents experts vous dirait « Ils sont tous nuls, on ne les recrute pas. » Et en plus, vous avez entendu, Matthieu est déjà dénoncé puisque il est sur la liste noire de ceux qui ont des soucis avec les affaires. Donc sous-entendu, c'est déjà un escroc. Et pourtant, même si Jésus avait eu un tel courrier, on sait qu'il ne l'a pas reçu, évidemment, c'est purement fictif, il a choisi de la bonne manière des collaborateurs qui ont été actifs. Et on pourrait se dire qu'il a peut-être fait le mauvais choix avec Judas, mais c'était un choix qui était délibéré parce que Jésus avait clairement un plan en vue. Donc le texte biblique nous propose une autre approche que celle qui est imaginée par des recruteurs professionnels. Jésus choisit donc un collaborateur direct de l'occupant romain, l'invite, pour ainsi dire, à faire demi-tour, à quitter son travail pour le suivre. Et vous avez vu que Matthieu ou Lévi n'hésitent pas une seconde au moment où Jésus l'appelle. Il se lève, il quitte son travail, il décide de suivre Jésus et d'entrer à temps plein au service de son maître. Un appel clair, précis, le collecteur d'impôts ne discute pas, ne négocie pas le salaire ou les taxes, il se met en route et il va le suivre dans un nouveau projet. On a donc le constat que le disciple répond à son maître. Il y a quelque temps, en débutant l'évangile de Marc, Josué nous a rendu attentifs au fait qu'il y avait un avant, un après. Et que cette thématique revenait, et là, on le voit bien, il y a un avant cet appel de Jésus et un après. Celui du collaborateur, de l'ennemi du peuple, Lévi, avant, devient Matthieu, l'évangéliste, proche du Seigneur, rédacteur d'un de nos quatre évangiles. Lévi quitte son ancienne vie pour devenir Matthieu, le collaborateur direct de Christ. Il suit le maître, il entre à son service, il décide de le servir. Une réponse claire, simple, directe. Et pour marquer la transition, il décide d'organiser ce repas avec Jésus. Alors la Bible ne donne pas beaucoup de détails sur pourquoi ce repas, mais les autres disciples et les anciens collègues de travail, collecteurs d'impôts également, sont présents. Tout le monde à la même table. L'occasion peut-être de dire au revoir aux anciens collaborateurs et de faire une transition avec les nouveaux. En invitant toutes ces personnes à partager un repas, le texte ne nous dit pas si Lévi avait le souci du témoignage qui soit donné, mais on peut aisément l'imaginer. Il est manifeste que les collaborateurs, les anciens, ont compris que le disciple avait changé de vie, qu'il allait suivre désormais Jésus-Christ et arrêter de récolter les taxes pour l'occupant romain. Il n'a donc pas hésité à réunir de nombreuses personnes pour un repas d'adieu avant d'entrer dans cette vie nouvelle. Et on pourrait se réjouir de cela. On pourrait se réjouir de cet événement festif qui marque réellement une transition. Mais évidemment, ça ne va pas plaire à tout le monde. Les pharisiens, les spécialistes de la loi, qui trouvent toujours la petite bête là où il ne faut pas, vont condamner Jésus et remettre en question. Comment ? Pourquoi ? Quel est leur intérêt dans cette situation ? Le fait que Jésus se mêle à des collecteurs d'impôts et des pêcheurs, à leurs yeux, est condamné par la loi. Il ne faut pas oublier que les pharisiens rajoutaient à la loi de Dieu les traditions orales, et que dans de multiples traditions orales, partager un repas avec des personnes impures n'était pas recommandé. Or, le collecteur d'impôts sont des impurs. Donc, se lier avec des impurs, c'était vraiment ce qu'il fallait éviter de faire, si vous étiez un bon juif. Donc leur question, c'est pas une question. Il n'y a pas de pourquoi. C'est une volonté directe de discréditer Jésus et ses disciples. En même temps, on ne va pas reprocher aux pharisiens d'être incohérents. Ils sont pleinement cohérents. Ils étaient les premiers à dire qu'il fallait que les juifs restent le plus éloignés possible de l'occupant romain. Donc, ils posent une question, ils connaissent la réponse, mais ils ne veulent pas forcément l'entendre. Et Jésus, à nouveau, va être extraordinaire parce qu'il donne une réponse qui est parfaitement claire, parfaitement limpide. Il démontre aux pharisiens, aux spécialistes de la loi qui se sentent les plus purs parmi les purs, qu'il est venu couper les séparations entre les hommes. Ceux qui sont méprisés, rejetés par la société. Jésus vient aussi s'adresser en agissant ainsi. Jésus démontre qu'il pouvait s'adresser à ceux qui étaient considérés comme les pires personnes à leurs yeux. C'est comme si les pharisiens avaient classé les personnes en reconnaissant qu'il y avait d'un côté ceux qui étaient respectables, qu'on pouvait respecter, et de l'autre, les autres dont on ne s'intéresse pas, avec qui il ne faut pas avoir de contact, avec qui il ne faut pas avoir de lien. Jésus leur dit « Le médecin est venu pour prendre soin des malades ». Il est venu guérir la plaie la plus profonde de l'humanité, qui s'appelle le péché. Et là, c'est un accent très très fort sur quelque chose d'extraordinaire. Quand on s'engage à suivre Christ, quand on découvre qui il est pour nous, on découvre qu'il y a une œuvre de guérison intérieure qui est extraordinaire. Vous savez, je suis passionné d'histoire et en particulier d'histoire de l'Église. Et cette notion de la dimension médicale du salut, c'est une notion qu'on a laissée un petit peu de côté dans la théologie occidentale. Je m'explique. En Europe, on s'est beaucoup appuyé sur les écrits d'Augustin, un des pères de l'Église, qui a insisté sur la dimension judiciaire du salut. En Christ, vous êtes déclaré juste. Mais en Orient, comme certains des pères de l'Église avaient écrit en grec et n'avaient pas été traduits en latin, ils ont beaucoup plus insisté sur le fait que le salut est une œuvre de guérison profonde de l'être intérieur, de la maladie qu'est le péché. Et c'est intéressant de savoir que c'est les deux. En plus, dans le mot grec qui est utilisé, le mot pour parler de sauver ou du salut, il y a à la fois cette idée de guérir et de sauver. Les deux idées sont présentes. Donc, Jésus est clairement venu apporter des soins à ceux qui étaient malades, abîmés par la vie. Alors que les pharisiens disaient, il faut s'éloigner, ils sont malades justement, ils pourraient nous contaminer. Jésus va aller vers eux et leur apporter la guérison. Donc il est en train de préciser davantage les contours que vont prendre son ministère, les moyens de son action. Il souligne que le péché ou tout ce qui éloigne les hommes de Dieu a besoin d'être guéri, et il démontre que ceux qui sont les plus éloignés ont sans doute besoin de soins, en tout cas ont conscience d'avoir besoin de soins, alors que les pharisiens, qui pour eux se sentent justes, n'ont pas forcément ce besoin-là. Et pourtant. Est-ce que l'histoire s'arrête là? Eh ben non. Contre-attaque des pharisiens. Jésus a répondu sur le fait de partager le repas et les pharisiens n'en demeurent pas moins inactifs dans leurs attaques. Cette fois-ci, ils s'en prêtent au fait que ils ne jeûnent pas. Premier reproche, vous bouffez, excusez-moi, avec la lie de l'humanité. Deuxième reproche, vous ne jeûnez pas. Ça va, quoi. C'est quand même les deux reproches extrêmes qu'on est en train de faire à Jésus et à ses disciples. Si vous me permettez l'expression, ils sont un peu gonflés, ces pharisiens. Mais ils ne jeûnent pas, ça veut dire qu'ils ne prient pas suffisamment. Ça veut dire qu'ils ne sont pas assez consacrés à Dieu. Deuxième attaque. Une nouvelle fois, ils sont là en train de dire « Est-ce que vous allez respecter la loi et les traditions orales ?» Et Jésus va avoir une réponse assez remarquable parce qu'il va s'appuyer sur trois images, trois métaphores. La première, le marié et la noce. On ne va pas se priver de faire la fête au moment où on fait la fête tant que le marié est là. Du jour où il va être enlevé, évidemment, là, le jeûne se justifiera. Deuxième exemple, l'exemple de la couture. Une pièce neuve, toute belle, sur un habit abîmé, qui n'aidera pas à tenir et qui va augmenter la déchirure. Et troisième exemple, celle du vin, qui va faire exploser les outres et se répandre à terre. Dans les trois cas, ce sur quoi Jésus met l'accent, c'est sur la notion de temps. Et de profiter aussi des instants présents. Il y a un temps pour certaines choses, il y en a un temps pour d'autres. Il y a le temps de fêter avec lui, il y a le temps de jeûner. Il y a le temps de fêter avec Matthieu qui le suit, qui change de vie, qui vient de vivre une expérience radicale, un tournant profond dans sa vie et qui décide de le suivre. Et il y aura le temps de jeûner, de prier, quand Jésus-Christ ne sera plus au milieu d'eux. La question de la couture comme celle du vin, pour faciliter la conservation, enfin des outres pour faciliter la conservation du vin, va un peu dans le même sens. Donc finalement, Jésus est en train de nous dire qu'il existe un temps comme aujourd'hui pour voir les choses autrement. En prenant la perspective que Jésus donne, nous pouvons donc découvrir que Jésus appelle ses disciples à une vie nouvelle, les invite à suivre de nouveaux projets. Il y a un avant, il y a un après. Donc finalement, ce qui est extraordinaire dans ce passage, c'est que Jésus nous offre la compréhension de ce qu'est le pardon et nous pousse à voir les étapes d'après. Marc nous a démontré ici dans son récit que Lévi, qui était considéré comme malade du péché, qui collaborait avec l'ennemi, qui exploitait les membres du peuple de Dieu pour l'occupant romain, Lévi, l'ennemi public, devient disciple de Jésus-Christ. Il change de vie, il est Matthieu, l'évangéliste. Jésus ne le condamne pas, mais il l'appelle juste à faire un changement radical de vie, à s'engager dans un tournant à 180 degrés pour vivre autre chose. Celui qui a été pardonné va devenir un collaborateur extrêmement actif. L'évangile de Matthieu que nous ne sommes pas encore en train d'étudier en ce moment a une particularité. Chaque évangile d'ailleurs a une particularité. Je ne sais pas si vous savez laquelle. Vous avez une idée ? L'évangile de Matthieu est considéré comme un évangile qui s'adresse davantage aux Juifs. parce que c'est dans celui-ci que vous avez le plus de citations, d'allusions à des textes de l'Ancien Testament pour dire « Jésus est celui qui a accompli telle prophétie, telle prophétie, telle prophétie. Il est bien le Messie attendu. » Marc est considéré comme s'adressant davantage aux non-juifs. Et c'est vrai que là, effectivement, dans l'angle de vue que va proposer Matthieu, qui va être ce disciple, qui va rédiger plus tardivement cet évangile, il nous propose un portrait de Christ qui est remarquable. Christ qui vient en tant que fils de l'homme, entendez fils de Dieu, en écho avec ce qu'on a vu avec le livre de Daniel récemment, vous vous souvenez, hein, cette prophétie de Daniel 7, où il est dit « Le fils de l'homme vient voir l'ancien des jours et reçoit toute autorité sur la vie, sur un certain nombre de choses. » Daniel 7, 13 et suivant, vous pouvez le relire chez vous, il y a un écho ici qui va sonner, qui se retrouve essentiellement dans l'évangile de Matthieu. Il y a donc un changement radical. Et finalement, on pourrait dire que vivre le pardon, c'est déjà une très belle étape. Mais il faut aller plus loin. On ne peut pas seulement se contenter de vivre le pardon. Il faut vivre une réelle restauration, une réelle réhabilitation. Et c'est là où je voudrais dégager essentiellement deux implications pratiques. Ne nous limitons pas à la simple question du pardon. Ça commence par là. Quand nous avons fait des fautes, quand nous avons fait du mal, quand nous avons mal agi, blessé quelqu'un, dès qu'on en prend conscience, il n'y a qu'un chemin à suivre, celui du pardon. Pardonner, ça ne voudra jamais dire que nous allons excuser la faute, ni que nous allons trouver des circonstances pour la rendre compréhensible et légitime. On peut chercher à essayer de comprendre le point de vue de l'autre, ce qui s'est passé. Parfois, il y a des paroles ou des actes neutres qui vont susciter de la colère, qui vont provoquer des blessures sans qu'on en ait conscience. Mais il y a aussi des paroles qui sont blessantes. Et quand j'en ai conscience, j'ai à demander pardon. En pardonnant, qu'est-ce que je fais ? Je choisis de ne pas accuser l'autre. Et surtout, je choisis de ne pas repasser devant le tiroir caisse et de laisser de côté mon droit à la vengeance, à la réparation. C'est l'heure des comptes. En pardonnant, je confie à Dieu mes griefs. Je laisse de côté mon droit à la justice, à la réparation. Et je l'abandonne à Dieu. C'est pas autre chose le pardon. Un pardon est essentiel dans la vie chrétienne et c'est quelque chose d'un conditionnel. C'est pas lié à des circonstances particulières. Alors, évidemment, il y a des conditions particulières. On a parfois besoin de temps pour être prêt à pardonner. Ça, c'est vrai. Et dans nos vies pratiques, on le voit bien. Je vais pas vous redire qu'il y a de magnifiques écoles pour apprendre à marcher en nouveauté de vie dans la sainteté. La première, elle s'appelle le couple. La deuxième, elle s'appelle l'église. À force de se frotter les uns aux autres, eh bien, forcément, on est amené à vivre ces réalités. Donc si j'ai blessé l'un d'entre vous, il faut que je puisse le voir, il faut que je puisse en parler pour comprendre ce qui s'est passé, ce en quoi j'ai mal agi, et demander pardon. Ou si j'ai été blessé, je dois le dire, et espérer qu'effectivement on puisse se comprendre et se demander pardon. Ça, c'est la première étape. Donc ne nous limitons pas simplement un pardon donné, ni un pardon reçu. Et ne confondons pas non plus le pardon avec la réconciliation. La réconciliation suppose que je vais vivre une relation restaurée, un changement plein et entier de vie. Ce qui a été abîmé entre nous est désormais dépassé. Une réconciliation, une réhabilitation deviennent possibles quand on peut de nouveau travailler ensemble et profiter du fait que nous avons su résoudre ce qui posait problème. Je demande pardon, je suis pardonné. L'autre personne avec qui je suis en tension me demande pardon, je pardonne. Les conditions sont réunies pour qu'on passe aux étapes suivantes. Mais mon pardon ne sera vrai et efficace que s'il y a un réel changement dans les relations. Si je ne fais pas l'effort de vivre dans le respect de l'autre, dans le respect de ce qui l'a blessé, choqué, heurté, le pardon ne sera pas entier. Et c'est comme si je n'avais pas tenu compte du fait que j'avais blessé l'autre. Donc le pardon est une démarche qui est radicale. Ça, vous vous en doutiez. Vous le savez, et je pense que tout le monde parmi nous a dû l'expérimenter. Si je ne me remets pas en question, si je refuse d'écouter, comment vais-je éviter la prochaine fois de refaire et de reproduire à nouveau du mal? Par contre, si je reste vigilant, si je fais attention à ce que vit l'autre, et si je fais l'effort de changer d'attitude, et je devrais plutôt dire si je me laisse conduire par l'amour de Dieu, il y a de fortes chances que la relation puisse être restaurée. Et c'est ce à quoi nous sommes invités. Alors finalement, en filigrane, au-delà des attaques fourbes des pharisiens, le fait que les vies d'avant deviennent Matthieu d'après illustre bien cette réalité d'un passage du pardon plein et entier à la réconciliation et à la possibilité de travailler ensemble. Est-ce que nous serions capables de faire de même? Difficile de répondre. En tout cas, nous devons tendre. Alors, quelques mots simplement pour conclure. Retenons effectivement que l'évangile de Marc, après avoir illustré par l'épisode de la guérison d'un paralytique, le pardon que Jésus-Christ propose, invite chacun d'entre nous à prendre conscience que le pardon est une étape et qu'il y a réconciliation, restauration à vivre par la suite. Une personne qui a été meurtrie, blessée, qui s'est engagée sur une mauvaise voie, peut faire ce virage à 180 degrés, faire demi-tour, accepter d'être pardonnée, recevoir le pardon et pardonner elle-même. Mais il est aussi important de tenir compte des leçons de ce que nous avons vécu de difficile dans ces relations qui ont été abîmées. Si le pardon est vrai et sincère, si on démontre que l'on a changé, que les blessures qu'on a occasionnées, on évitera de les refaire, il faudra parfois un peu de temps et de confiance, malheureusement, pour restaurer la relation et retravailler ensemble. C'est pas donné, mais ça demande aussi d'arrêter de soupçonner le mal chez l'autre. Ça demande aussi de faire l'effort de la confiance et du pari de la restauration de la relation. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas impossible. À vue humaine, c'est perdu d'avance. En comptant sur l'aide de Dieu, c'est très vite gagné. Dieu, dans sa bonté, peut m'aider à voir des petits indicateurs de changement qui sont de réelles pépites d'or, qui peuvent nous guider sur le chemin d'un trésor. Il y a quelques années, alors que j'étais au service d'une église à temps plein, il m'est arrivé la situation suivante. J'étais en tension avec un frère de l'église. Il y avait beaucoup d'incompréhensions et au-delà de ces incompréhensions, il y avait beaucoup de difficultés à s'entendre parce que l'écoute réciproque, elle n'était pas là. Il faisait pas beaucoup d'efforts, je n'en faisais pas beaucoup non plus, je dois le reconnaître. Et c'est vrai que nous étions un peu dans une impasse. Et voilà qu'un jour, un des responsables de l'église, un des anciens, est venu me voir. En me prenant par l'épaule, il me dit « Paul, j'aimerais bien te partager quelque chose. » Mais oh, qu'est-ce qu'il veut me dire, là, le frère? Il me dit « J'ai une question à te poser. Sens-toi libre de me répondre ou pas. » En général, quand ça commence comme ça, vous vous dites « là, il y a une remise en question au bout, ça sent pas très bon pour moi. » « Vas-y, je t'écoute. » Il me dit « Est-ce que tu pries tous les jours pour ce frère avec qui tu es en tension ?» Et quand je dis « tous les jours », j'insiste « tous les jours ». J'ai dit « Tu veux que je sois honnête avec toi ?» Non. Eh ben commence. Et je t'encourage à t'y mettre. Et moi, je vais prier pour que tu aies le courage d'aller le voir et que tu règles vraiment le problème parce que c'est quelque chose qui est pesant, pas seulement pour toi, mais aussi pour nous. Eh bien, je peux vous dire que c'est un exercice qui n'est pas facile. Parce que vous allez juste commencer par dire, dans votre moment de prière, « Ok, Seigneur, bénis mon frère. » Et puis, on passe à autre chose. Ça, j'allais dire, c'est le minimum syndical. et encore. Et puis au fur et à mesure qu'on s'engage à le faire réellement, je peux vous garantir que les lunettes, elles changent. La manière de voir, elle change. Et peu de temps après, j'ai repris rendez-vous avec ce frère avec qui j'étais en tension et on a pu régler jusqu'à un certain point le problème. Quand je dis jusqu'à un certain point, il y a une reconnaissance de certains torts, mais pas tout. J'ai pas cherché plus de mon côté. Par contre, effectivement, si la reconnaissance avait été totale, je pense qu'on aurait pu peut-être retravailler ensemble. Les circonstances ont fait que nos routes se sont séparées et qu'il est passé à autre chose, et moi également. Mais il n'empêche que c'était une expérience qui était utile, parce qu'on voit à quel point les choses peuvent changer. Donc oui, chers amis, il y a du travail, et ça commence dans nos têtes. Donc, bon courage et bon travail à vous. On peut passer du pardon à la réconciliation. Ça en vaut la peine. Ça va nous aider dans nos vies, dans notre cheminement à la suite de Christ. Lévi, le collecteur de taxes, est devenu Matthieu, le disciple et témoin fidèle de Christ. Jésus a pardonné, a conduit sur un chemin de restauration, de réhabilitation. Alors engageons-nous à faire de même pour la gloire et l'honneur de son nom.